À voix nue, Caroline Brouet,
Sylvie Berman, ambassadrice de France.
Premier épisode, citoyenne du monde. Bonjour Sylvie Berman.
Bonjour Caroline Brouet.
Merci de nous recevoir chez vous à Paris. Je précise, chez vous à Paris, ça n'a pas toujours été le cas. Après 40 ans de vie partout dans le monde, enfin pas partout, mais à beaucoup, beaucoup d'endroits, vous avez été une pionnière, Sylvie Berman, première femme ambassadrice de France dans 3 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine, le Royaume-Uni, la Russie, les 2 premiers, avant même la loi Sauvadet qui, en 2017, a imposé un quota de 40% de femmes au poste à responsabilité. Quand on regarde votre parcours, retracé dans vos mémoires, publié en 2022 sous le titre « Madame l'ambassadeur », c'est impressionnant comme vous avez été à des endroits stratégiques, à des moments de bascule. Vous avez connu la Chine à la fin de la période maoïste et elle est devenue depuis la deuxième puissance mondiale 30 ans plus tard. Vous avez vu la fin de l'URSS et la montée en puissance de Vladimir Poutine. Vous étiez en poste au moment du Brexit. Vous avez assisté au triomphe du multilatéralisme onusien avant que le monde se replie sur une forme de bipolarité dont nous discuterons dans la dernière émission. C'est en fait 40 ans d'histoire diplomatique que vous nous faites vivre et c'est aussi la vraie vie d'une femme à la plus haute fonction de la diplomatie. Votre livre, vous l'aviez intitulé « Madame l'ambassadeur ». Là, vous venez de dire ambassadrice de France. Vous avez changé de point de vue sur la féminisation de la fonction et de son titre ?
Non, je n'ai pas changé de point de vue. Je regrette qu'on ait perdu d'ailleurs le titre d'ambassadeur. Mais il se trouve que c'est une dignité ambassadrice de France. Et c'est ce qui figure sur le décret. C'est la raison pour laquelle je reprends ce titre. Mais sinon, je considérais que c'était... plus opportun de garder le titre de Madame l'ambassadeur. D'abord, quand vous dites Madame, vous comprenez bien que c'est une femme. Et puis, pendant des années, il y a eu des confusions parce que les ambassadrices étaient les femmes des ambassadeurs. Et mon premier poste d'ambassadeur, en réalité, c'est en 2002, auprès du Comité politique et de sécurité à Bruxelles, donc sur les questions européennes et de politique étrangère et de défense. Et effectivement, à ce moment-là... Il était bien de préciser les choses et de clarifier. Et j'ai conservé ce titre que je continue à préférer, même si les choses ont changé, que les jeunes femmes aujourd'hui se font appeler ambassadrices.
Est-ce que vous préférez que je vous appelle Madame l'ambassadeur au cours de ces 5 entretiens ou Madame l'ambassadrice ?
Je vous laisse libre.
Bien. Est-ce que vous êtes naturellement diplomate, Madame l'ambassadrice ? Est-ce que quand vous dites « je vous laisse libre », par exemple, c'est une réponse de diplomate ?
Mais je suis, oui, diplomate. C'est-à-dire je suis un peu dans la modération et non pas dans le conflit.
C'est ça, être diplomate ? Être dans la modération ?
Mais je pense que oui, même quand vous négociez, en fait, d'abord, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Il faut savoir faire preuve d'empathie. Ensuite, évidemment, vous exprimez des désaccords, même au Conseil de sécurité, même avec les pays que l'on condamne, avec lesquels on était des accords. Il y a toujours une forme de courtoisie.
Est-ce que vous avez appris cela, Sylvie Berman, quand vous étiez enfant ? Je crois que vos deux parents étaient avocats. Vous êtes née dans le Jura, à Salins-les-Bains, en 1953, mais vous avez grandi à Paris puis à Lyon. Vos deux parents étaient plutôt modérés ou il y avait des cris à la maison ?
Non, il n'y avait pas de cris à la maison. Mon père était très littéraire. D'ailleurs, souvent, il déclamait le matin parce que mes parents ont eu des enfants très jeunes et donc mon père n'avait pas encore passé le capa quand il a eu des enfants. Et je l'entendais, mais toute petite le matin, réciter le songe d'Athalie que je connais toujours. Ce qui explique les milliers de livres que vous voyez ici.
Les milliers, en effet. Vous avez à peu près 5000 livres. Vous le savez parce que vous venez d'emménager dans l'appartement où nous nous trouvons, qui n'est pas complètement terminé. Et donc, vous avez pu les compter. Vous avez à peu près 5000 livres.
Alors, c'est 1000
de la Russie, 1500 de la Chine. Enfin...
Oui, tout à fait. Enfin, ce n'est pas moi qui les ai comptés. C'est mon architecte et qui m'a dit qu'il fallait que j'en donne 2000.
Donc votre père vous a transmis cet amour qu'il avait de la littérature. Il y a quand même une figure importante qui n'a pas forcément compté dans votre amour de la littérature, quoique, vous allez nous le dire, Sylvie Berman. Cette figure qui a énormément compté pour vous, c'est votre grand-mère paternelle. C'est Mina, qui était née à Kiev en 1902, qui est arrivée à Paris en 1910, et qui habitait finalement pas très très loin de là où vous vous trouvez aujourd'hui. Elle habitait rue Claude Bernard, nous sommes rue de l'Odéon, à Paris. Et petite, vous alliez souvent la voir.
Oui, tout à fait. C'était une personnalité très forte, très, très russe, juive en même temps. Donc, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup marquée. Et elle offrait à tous ses petits-enfants le général Dourakine et de la comtesse de Ségur, et ça a été mon premier vrai livre, parce qu'avant, on a un peu des livres d'enfants avec des images, et là, c'était le premier vrai livre qui m'a fait rêver, et donc mon premier imaginaire, c'était la Russie, c'était sa Russie, même si en fait, elle n'en parlait pas beaucoup, parce que à cette époque-là, les immigrés tenaient absolument à s'intégrer. Et donc, elle en parlait assez peu, mais il y avait un samovar, par exemple, sur sa cheminée. Elle buvait toujours le thé dans des verres, jamais dans des tasses. Et ce qui était étonnant, c'est que comme elle avait que des verres en cristal et des verres à pied, bah, malgré tout, elle utilisait les verres. Donc, il y avait ce côté très, très russe, effectivement. Alors, elle parlait russe et yiddish, mais pas avec moi, en fait. Jamais, elle ne parlait que français. Comme elle est arrivée à l'âge de 8 ans, elle n'avait pas d'accent du tout. Donc, malheureusement, je n'ai pas appris ces deux langues avec elle.
Et vous avez lu le général Dourakine de la comtesse de Ségur. Donc, assez vite, vous dites même, dans les premiers mots de Madame l'ambassadeur, « Aurais-je été diplomate sans le général Dourakine ?»
Parce que c'est lui qui m'a, effectivement, c'est ce livre qui m'a fait rêver d'un ailleurs. Ce qui est très intéressant, c'est que le général Dourakine, en fait, Dourak, en russe, ça veut dire idiot. Et moi, dans mon imaginaire, au contraire, c'était quelqu'un qui avait une grande prestance et qui était très impressionnant. Il avait amené une famille française, des enfants en Russie, après avoir été en France. Je crois que le premier, c'est l'auberge de l'Ange Gardien, mais dont je ne garde pas de souvenirs. Mais ce général Dourakine, d'ailleurs, j'ai toujours ce livre dans ma bibliothèque.
Il est là quelque part derrière nous.
Il est là quelque part,
très grande bibliothèque des livres russes.
Avec sa grande pelisse, ses grandes bottes. Et voilà, mais c'est aussi le contraste entre l'imaginaire et puis la réalité. Puisque, en fait, il était un peu naïf, un peu bête. Ce n'était pas du tout cet homme impressionnant que j'imaginais.
Donc, la Russie, Sylvie Berman, est le premier lieu du rêve ou de l'imaginaire pour vous?
Oui, parce que je me souviens de rédactions d'école où je disais d'Asvidania, ma grand-mère, sur le quai de la gare, alors qu'en fait, c'était mon imaginaire. Ce n'était pas du tout une réalité, même si elle y est retournée en deux chevaux avec mon arrière-grand-mère. Et son frère. Voilà, c'est un peu ce qui a alimenté mon goût pour l'étranger, pour les vastes espaces aussi, puisqu'après j'ai découvert la Chine. Mais par ailleurs, j'aimais lire les contes et légendes. Enfin, j'ai toujours eu un attrait pour les pays et les cultures étrangères.
L'autre ancrage, l'autre origine importante, disons, est peut-être l'identité juive de votre famille?
Oui, tout à fait. Alors, ma famille paternelle est juive, donc pas ma mère, ce qui veut dire que techniquement, je ne suis pas juive, mais c'est mon identité parce que, d'abord, ma grand-mère est, comme vous l'aviez rappelé, née à Kiev et ma famille paternelle a immigré en France. C'était l'époque des pogroms et donc ça aussi, c'est important. Mon arrière-grand-père, puisque mon arrière-grand-mère s'est remariée, est mort à Auschwitz. Donc, c'est difficile de ne pas être rattaché à cette histoire, qui n'est pas une religion, parce que je n'ai pas de religion, mais c'est effectivement une identité très, très forte.
Votre père parlait de cette disparition de son grand-père dans les camps. Est-ce que, petite, vous vous souvenez d'en avoir discuter avec lui?
Alors, il en parlait effectivement, et mon frère a comme deuxième prénom Félix, qui était le prénom de mon arrière-grand-père. Donc, en hommage à ce grand-père qu'il adorait.
Il avait de drôles de lectures en plus, votre père, parce que il vous faisait lire Mein Kampf, enfin il vous a fait lire Mein Kampf très tôt, justement pour en parler avec vous.
Tout à fait, il m'a fait lire beaucoup de livres sur la période du nazisme, sur l'antisémitisme, parce que pour lui c'était important d'être véritablement informé. Il était, je disais qu'il était très littéraire, mais il était aussi passionné par l'histoire et par l'actualité.
Vous lui en êtes reconnaissante aujourd'hui de ses lectures, de cet éveil, de cette conscience?
Oui, bien sûr. Et bon, il est mort assez jeune, et, il avait 60 ans et enfin, j'avais déjà 35 ans, j'étais en Russie d'ailleurs, mais souvent ça m'a manqué de ne plus pouvoir parler avec lui.
Côté maternel, Sylvie Berman, on n'est pas du tout dans le même registre, puisque je crois même que vous aviez une grand-mère catholique antisémite.
Oui.
Pas facile dans la famille, entre les deux.
Non, tout à fait. Ils n'ont pas du tout apprécié le mariage de mes parents. Et d'ailleurs, personne n'était au mariage. Mais en fait, c'est beaucoup plus classique qu'on ne l'imagine dans ces familles françaises, très, très catholiques, effectivement. Mais après, bon, quand il y a eu les enfants, ils ont adoré leurs petits-enfants. Donc, les choses se sont réglées.
Vous n'en avez pas pâti, disons.
Non, pas du tout. J'en étais pas vraiment consciente, d'ailleurs. Donc, je l'ai appris après.
Pour vous, il y avait les langues, il y avait la Russie, il y avait les lectures et il y avait les voyages. Vous avez commencé assez jeune à voyager. Vers 12-13 ans, il y a eu l'Angleterre régulièrement pour aller apprendre l'anglais. Ça vous a réussi. Mais il y a eu un certain nombre de voyages. L'Irlande, les États-Unis, un peu plus tard le Monténégro, le Turkménistan. Elle est toujours un peu plus loin. Toujours au-delà des frontières et puis aussi dans des pays qui n'étaient pas forcément les premiers pays auxquels on pense quand on est jeune à cette époque-là.
Oui, tout à fait. Enfin, j'ai aussi, en dehors de l'Angleterre, de l'Irlande, après effectivement les États-Unis, mais j'ai beaucoup voyagé avec mes parents qui aimaient voyager également. Et là aussi, c'était la découverte d'autres choses.
À Monténégro, Turkménistan, même peut-être l'Albanie en 72-73, c'était pas extrêmement courant.
Non, alors le Turkménistan, ça a été lorsque j'étais en poste en Union soviétique.
Ah, c'est plus tard. Alors c'est plus tard.
C'est plus tard. Non, c'est alors c'est amusant parce que l'Albanie, c'est l'époque où j'étais à l'Institut des langues orientales au Langso, donc je faisais du chinois et la Chine était fermée à l'époque. Et il y avait ce qu'on appelait la petite Chine, hein, qui était l'Albanie. Où les Chinois étaient très très présents. D'ailleurs, ça a été nos premiers contacts avec des délégations chinoises. Donc un jour, avec un ami, on a décidé effectivement d'aller en Albanie. Mais ça a été un séjour totalement surréaliste, tellement l'Albanie était excessive dans son marxisme-léninisme.
Parce qu'on a parlé de la Russie, mais effectivement, vous développez assez tôt une fascination pour l'Asie. Alors, il y a eu les films japonais d'abord, et puis l'étude du japonais et du chinois à l'INALCO, à la Sorbonne. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût pour l'Asie ?
Alors, vous parliez effectivement du cinéma japonais. J'étais passionnée par le cinéma. J'allais très souvent, à l'époque, c'était dans les cinémas d'art et d'essai, dans les cinémathèques. Là aussi, c'est un héritage intellectuel de mon père. Et c'était l'époque des grands films japonais, Mizoguchi, Kurosawa, et je trouvais ça absolument extraordinaire. J'ai fait des études d'histoire et je trouvais qu'on avait une vision de l'histoire qui était trop européo-centré et justement je m'intéressais à ce qu'il y avait de plus éloigné, à l'ailleurs le plus lointain et c'était effectivement le Japon et la Chine, l'Asie parce que j'ai fait du japonais avant de faire du chinois même si ensuite j'ai été passionnée par l'Asie et après avec le recul dans les lectures j'adorais Tintin même si mes parents me le laissaient pas lire parce que c'était des bandes dessinées, c'était pas de la vraie littérature mais je lisais chez ma grand-mère maternelle et j'adorais Tintin et le Lotus Bleu ou Tintin au Tibet. C'est finalement ceux qui me faisaient le plus rêver aussi. Puis ensuite, c'était l'époque, elle a été complètement oubliée, mais Pearl Beck, qui a été prix Nobel et qui est extraordinaire dans sa description de la Chine et des relations entre Orient et Occident. Il y avait Ran Suyin aussi. Littérature, effectivement, totalement oubliée. particulier.
Donc en fait, l'origine finalement de votre goût pour le lointain, pour les terres lointaines, c'est la littérature, c'est vos lectures d'enfants, d'adolescentes, qui vous ont ouvert les yeux ou peut-être donné cette espèce d'envie d'aller voir plus loin. Vous parlez
oui,
vraiment de l'ailleurs.
L'ailleurs, effectivement, ouais. C'est un rêve, c'est un imaginaire. Et je trouve que c'est aussi cela qui m'a porté. Et c'est vrai que dans les différents pays où j'ai vécu, mes références étaient littéraires. Même au Royaume-Uni, c'est Charles Dickens, c'est Agatha Christie. Aux États-Unis, Edith Wharton. Et je veux dire, pour moi, la connaissance d'un pays ne peut pas s'entendre sans le support de la littérature.
Sylvie Berman, j'entends cet amour du lointain, ce goût pour l'ailleurs, et je me dis peut-être que quand on est une jeune fille dans les années 60-70, on se dit ben, je vais devenir grand reporter, ou je vais écrire, puisque vous aviez cet amour de la littérature. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être diplomate? Est-ce que vous avez choisi d'être diplomate? Et si oui, à quel moment cela s'est-il imposé?
Alors, ça s'est imposé, mais un petit peu comme un flash. C'est-à-dire, quand je suis allée m'inscrire aux langues zoo, d'abord, j'avais rêvé parce que de toutes les langues, toutes les civilisations dont la connaissance était proposée. Et j'avais lu dans ce petit fascicule que un diplôme des langues zoo permettait de passer le concours du ministère des Affaires étrangères et de devenir diplomate. Et c'est comme ça que ça s'est imposé. Et peu de temps après, donc, j'ai eu une bourse pour aller étudier en Chine, et je suis allée à l'ambassade, ça a conforté effectivement mon désir d'être diplomate et cette possibilité de vivre une grande partie de ma vie à l'étranger.
On est en 1976, année de la mort de Mao Tse-tung, vous avez 23 ans, Sylvie Berman, et vous voilà en Chine. On vous avait mis en garde avant de partir, je crois qu'on vous avait dit que c'était un pays sans avenir. L'avenir a détrompé ces personnes.
Ces personnes, c'était la direction des études de Sciences Po, parce que j'étais à Sciences Po et j'ai demandé une suspension d'études entre la deuxième et la troisième année, puisque j'avais cette bourse et que c'était une occasion assez rare, puisque la Chine avait été fermée pendant des années à cause de la révolution culturelle. Donc, il y avait eu énormément de candidats et je ne voulais pas rater cette occasion. Et effectivement, direction des études de Sciences Po m'a dit que j'allais perdre mon temps dans un pays sans avenir, que je ferais mieux de rester en France et de finir mes études à Sciences Po et de passer mon diplôme. J'ai insisté et j'ai eu une suspension d'un an, ce qu'évidemment je ne regrette pas parce que ça a été le fil rouge de ma carrière et je pense que sans ce premier séjour en Chine, je n'aurais peut-être pas été diplomate ou peut-être pas fait cette carrière.
C'est un pays qui, en tout cas, à l'époque, n'intéressait pas énormément de monde dans le milieu des relations internationales. Les choses ont sans doute quand même beaucoup changé depuis, Sylvie Berman. Vous êtes partie étudier à l'Institut des langues de Pékin, qu'on surnommait la petite ONU. Est-ce que vous vous souvenez de votre arrivée?
Oui, je me souviens très bien de notre arrivée parce que, en fait, on avait appris le chinois au Langzhou de manière extrêmement littéraire, c'est un grand mot parce qu'on étudiait les textes philosophiques du président Mao et on lisait avec un lecteur venu de Chine le quotidien du peuple. Mais le résultat, c'est que quand on arrive en Chine, on ne parle pas un mot de chinois, en tout cas du chinois courant. Ce dont je me souviens, c'est que quand on a atterri, puis à l'époque c'était un long voyage avec plusieurs escales, Mao était mort depuis quelques jours, donc tout le monde portait un brassard noir. On a ensuite été emmené en bus sur le campus et en fait c'était la campagne. Il y avait une petite route bordée d'arbres et comme il y avait pas de lumière nécessairement dans tous les appartements, les Chinois étaient assis en cercle là où il y avait des lampadaires ou réverbères sur la route et il y avait tellement peu de voitures qu'ils prenaient des risques. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Là, notre bus n'a pas provoqué d'accident, mais je me souviens de ces Chinois jouant au go, aux cartes, en plein milieu de la route.
Il faut quand même se remettre à l'époque, c'est-à-dire que là, on discute en 2024, la Chine est la deuxième puissance mondiale, elle a mis 30 ans à devenir ce qu'elle est devenue dans le monde. En 1976, on sort de la révolution culturelle, on sort d'une immense famine. Vous découvrez quelle Chine, vous découvrez quel Pékin. À quoi ressemblait Pékin, par exemple ?
Pékin, c'était un grand village, un petit peu délabré. Ce qui me frappait, c'est les montagnes de choux, ces choux chinois qui sont oblongues et que on apprécie aujourd'hui en Europe parce qu'ils sont peu caloriques. Mais c'était le problème à l'époque, c'est qu'ils avaient souvent que cela à manger. Et ce qui me frappait chez les jeunes hommes en particulier, c'est qu'ils avaient une ceinture qui faisait deux fois le tour de leur taille. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, parce que les Chinois ont évidemment grossi avec la prospérité. C'était un pays misérable, véritablement. Effectivement, ils sortaient d'une famine. Et à l'époque, comme on faisait des études selon le système chinois, qui était celui des paysans, ouvriers et soldats, puisque les enfants de cadre n'avaient pas le droit de faire des études. Et donc, j'ai travaillé une semaine à la campagne, j'ai repiqué du riz dans une commune populaire et j'ai travaillé dans une usine de transistors en faisant de la petite soudure à l'étain. Et donc, ça permettait d'avoir une vision un peu plus large que la vie estudiantine de ce qu'était la Chine à l'époque. Nos professeurs nous emmenaient aussi faire des visites. C'était toujours très, très idéologique parce que, en général, vous aviez des Chinois âgés qui vous racontaient à quel point le Parti communiste leur avait apporté la joie, le bonheur. Évidemment, personne ne parlait au début de la révolution culturelle, mais j'ai connu une période charnière, puisque j'ai assisté à la fin de la révolution culturelle.
Oui, parce que la mort de Mao n'a pas coïncidé tout de suite avec la fin officielle de la révolution culturelle.
Non, tout à fait. La fin officielle de la révolution culturelle, c'est la chute de la bande des quatre, dont la veuve de Mao, et puis trois autres qui étaient plus ou moins journalistes, mais en tout cas propagandistes, et qui étaient très très durs. C'était une Chine qui était sous un contrôle policier terrible, et avec même une police de la pensée, c'est-à-dire que les parents avaient peur de ce que pourraient dire leurs enfants. D'ailleurs, il y a eu des Chinois qui ont été maltraités, voire tués à cause de cela. Donc un matin, moi je suis arrivée en septembre, donc c'était trois semaines, un mois après, en octobre, on entend des gongs et des tambours, on demande aux professeurs ce qui se passe et ils nous répondent rien du tout, venez en cours, bien sûr on prend nos bicyclettes et on suit ces camions avec les gongs et les tambours et on est arrivé à Tiananmen, sur la place, au milieu de manifestations de joie sincère. Parce que le peuple se sentait libéré. C'était d'ailleurs très gentil avec les étrangers. Certains nous tendaient la main pour monter sur les camions pour qu'on puisse prendre des photos. C'était assez inhabituel à l'époque. Les relations entre les étrangers qui étaient rares et les Chinois n'étaient pas du tout encouragées. Et ça a duré pendant 3 jours. Et donc ça a été un moment très fort. Ensuite, les choses ont évolué et peu à peu, l'idéologie était abandonnée.
Comment étiez-vous perçue en tant que jeune étudiante française en Chine à cette époque-là ?
Avec beaucoup de curiosité, ça rappelle un petit peu la scène de Tintin, où vous avez les Dupont qui se déguisent et qui sont suivis par des dizaines de personnes. Alors là, il y avait beaucoup plus de réserves, mais quand même, les étrangers étonnaient beaucoup. Et puis, il y avait une chose qui était un peu gênante, c'est que ils nous cédaient leur place dans le bus, c'est-à-dire que vous pouviez avoir une femme très âgée avec encore les pieds bandés. C'est inimaginable aujourd'hui, mais quand je suis arrivée, ça existait encore. Donc, il y avait peu de stabilité, bien sûr. Et dès qu'elle voyait un étranger dans les bus bondés, elle cédait la place, même à un jeune. Donc, en général, on refusait, mais on les vexait et ça créait un incident diplomatique, entre guillemets.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après cette chute de la bande des quatre et donc la fin officielle de la révolution culturelle ? Est-ce que vous avez vu un changement immédiat ? Est-ce que ça a été progressif ?
Alors le changement a été progressif, mais ce qui est intéressant, c'est que si on compare avec la déstalinisation, il n'y a pas eu de démaoïsation officielle. C'est quelque chose d'un peu rampant, et finalement, au fur et à mesure, les politiques de Mao ont été abandonnées. C'était l'époque qui était foisonnante aussi sur le plan politique, parce que vous aviez les Dazibao, qui sont ces grandes affiches murales, qui sont l'équivalent des comptes Twitter d'aujourd'hui, d'une certaine manière, puisqu'il y avait des débats, donc ils affichaient ces grandes affiches sur les murs, et ils réclamaient à l'époque le retour de Deng Xiaoping, qui avait été banni par Mao. Donc c'était une période passionnante à cause de cela. Et puis, peu à peu, il a été décidé de rouvrir les universités, selon des cursus normaux, et de faire passer des examens à ces fameux fils de cadre pendant que les autres étaient renvoyés un petit peu dans leur campagne. Moi, j'avais partagé ma chambre avec une jeune chinoise qui faisait des études de pharmacie, ce qu'on appelle les pharmaciens aux pieds nus. Et à l'époque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de véritables études ou des études accélérées. Et à l'époque, on lui demandait d'apprendre un peu de français parce que il n'y avait pas de médicaments chinois. Tous les médicaments étaient importés de l'étranger et en particulier de France. Voilà, mais elle-même a complètement évolué. Elle était, au début, elle m'avait arraché un livre des mains qui était un livre de Simon Leys, je crois qu'il était Les habits neufs du président Mao, dans lequel il y avait, enfin, qui dénonçait donc la révolution culturelle qui fascinait les intellectuels français. Et il y avait une photo de Lim Biao à côté de Mao. Et elle a pris un stylo et a rayé cette photo en disant « c'est un traître, c'est un méchant, je ne veux pas le voir ». Ce qui est effectivement bon, le comportement dans un pays communiste où on efface complètement ceux qui ne sont pas du bon côté de l'histoire.
Sylvie Berman, vous êtes restée un an à vous entendre parler, vous souvenir aujourd'hui, on a le sentiment que c'était une belle année, voire une expérience fondatrice. Mais au bout d'un an, il a fallu rentrer. Est-ce que c'était triste de rentrer pour vous ?
C'était très difficile de rentrer. J'aurais préféré rester un an de plus. D'ailleurs, pour apprendre vraiment bien le chinois, je pense que 2 ans sont nécessaires, mais j'avais pas le choix à l'époque. Ça n'existait pas, le système d'année de césure où on vous encourageait à passer votre diplôme le plus rapidement possible. Et c'était très difficile parce que moi, j'ai vécu cette aventure pendant un an. Et tout à coup, je me retrouve rue Saint-Guillaume avec des étudiants qui ne parlent que
de leur... Rue Saint-Guillaume, c'est l'Institut d'études politiques de Paris, c'est Sciences Po.
Absolument, c'est Sciences Po, avec des étudiants qui ne parlent que de leurs vacances en Bretagne. J'ai rien contre la Bretagne, j'y passe mes vacances aussi, et qui n'étaient absolument pas intéressés par mon expérience. Donc le retour a été un petit peu difficile.
Mais victoire, vous passez le concours d'Orient en 1979 au Quai d'Orsay et vous êtes immédiatement affecté au consulat général de France à Hong Kong. C'est dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sylvie Berman, que la Chine est devenue le fil rouge de votre carrière. On se retrouve demain pour parler de la Chine, à suivre l'épisode 2, le rêve chinois de Beilin, la forêt blanche. Merci et à demain.
Merci, à demain.
C'était À Voix Nue avec Sylvie Berman, réalisation Angélique Thibault, prise de son Virginie Lorda, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.